carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Arnaud Dautrive, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes peintre et secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts et un jour vous m'avez dit que Balthus avait été votre ami, votre maître, et je vous ai proposé de venir nous en parler au micro de Canal Académie. Vous avez très gentiment accepté cette invitation et je vous en remercie. Arnaud Dautrive, à quelle occasion avez-vous rencontré Balthus ?
J'ai connu Balthus lors de son arrivée à Rome. C'était en 1960. Mm-hmm. Je suis un... Excusez-moi de parler de moi, ce qui ne se fait pas, mais je suis obligé de dire que je suis un ancien Romain de la façon la plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'à mon époque, le prix de Rome se déroulait et était la conséquence de 3 mois et demi passés en loge, à la suite desquels les grands prix étaient attribués. Le gagnant partait pour Rome et pour moi, ça a été le cas. Donc, je suis parti pour Rome pour une durée de 3 ans et demi et qui, en fin de compte, a été à peu près de 4 ans. C'est là où j'ai connu, donc, Balthus. Car le directeur de la Villa Médicis, à l'époque, était obligatoirement un membre de l'Académie des Beaux-Arts. C'était à l'époque le compositeur Jacques Ibert.
Oui.
Et comme vous le savez, il y a eu des changements peu de temps après. Il y a eu la nomination par Malraux d'un nouveau directeur, par le fait que Jacques Ibert, je crois, a été directeur pendant près de 17 ou 18 ans de la Villa. Et Balthus a été nommé par
André Malraux.
C'est à ce moment-là que s'est modifié également le système du prix de Rome. Voilà.
Alors, vous l'avez rencontré.
C'est là où j'ai rencontré donc Balthus et j'ai eu l'avantage, en tant que le plus ancien de la Villa, de l'accueillir. Je me souviens, c'était chez notre ami l'ambassadeur Gaston Palevski au Palais Farnèse. C'était une cérémonie tout à fait simple, je me souviens, c'est dans un petit salon, et là, donc, nous avons été présentés à Balthus, et quelques jours après, il est venu donc à la Villa.
Donc, il a pris ses fonctions.
Voilà. Pas tout de suite. Il est arrivé ensuite, parce que après, je rentrerai peut-être dans différents détails où mes confrères ne connaissaient pas, étaient surpris de voir, j'allais dire, l'arrivée d'un peintre qui ne sortait pas, en fin de compte, du sérail, qui ne sortait pas donc de l'Institut.
Et vous connaissiez déjà sa peinture, je suppose ?
Alors, je connaissais sans la connaître, je ne la connaissais qu'en reproduction. Car, il faut le dire, Balthus, à cette époque, est encore un artiste très confidentiel. Ce n'est pas un peintre que l'on connaît. Je pense que lorsqu'il est arrivé, nous étions deux à connaître la peinture de Balthus. Nous avions vu des reproductions dans l'œil, et c'est avec un ami architecte, nous étions les deux seuls à connaître et en quelque sorte à aimer et non pas défendre l'œuvre de Balthus, qui n'était pas toujours très bien comprise.
Et qui a surtout connu, qui a été connu du grand public dans les années 80,
voilà.
70, enfin beaucoup plus tard.
Oui, beaucoup
assez,
plus tard.
Assez tardivement. Alors, vous aviez eu le Grand Prix de Rome.
Oui, j'ai eu le Grand Prix. Je suis un ancien de l'école, mais en fin de compte, je suis resté très peu de temps à l'école. Car, ne voyez pas de propos ostentatoires, bon, j'ai eu le prix de Rome donc du premier coup et je suis resté à peu près 16 mois à l'école. Donc, je n'avais pas également l'esprit véritablement école.
Alors, vous étiez un petit peu comme Balthus, parce qu'on peut dire que
dans une
lui-même...
Certaine... Non, je ne voudrais pas me permettre, mais si vous voulez, je venais donc de province, de Reims, de l'École des Beaux-Arts, et je avais obtenu un diplôme d'État qui venait d'être créé et qui me donnait donc la possibilité d'entrer directement dans une école supérieure, soit les Beaux-Arts, soit les arts décoratifs. J'ai choisi les Beaux-Arts. Et c'est là où j'ai eu ma véritable, donc, non pas formation de peintre, car en province, comme on disait à l'époque, eh bien, on n'apprenait pas forcément des rudiments de la peinture, mais c'est à l'école, dans l'atelier de Legueux, que j'ai donc véritablement appris à peindre et en même temps à découvrir ce qu'était le monde de la peinture.
Alors, quand vous êtes à Rome, là, et que Balthus prend ses fonctions, vous avez donc côtoyé Balthus pendant ces 16 mois ?
Alors, je l'ai côtoyé, nous nous sommes liés véritablement d'amitié, je l'ai revu alors que je ne faisais plus mon temps à Rome, car il avait une propriété à cette époque dans le Morvan. Il avait fait l'acquisition d'un château qui était une sorte... je plaisantais avec lui, je disais, c'est le château de la Hulotte. C'était un château très, très rustique, en même temps, tel qu'on les rencontre encore dans le Morvan.
Oui, le Morvan,
avec des grandes tours, des grosses tours. C'est un climat et un milieu très rude. En fin de compte, c'était assez surprenant. Et quand je partais pour Chassy, c'était à Chassy, près de Château-Chinon, eh bien, c'était en fin de compte, non pas un peu l'expédition, mais on avait le sentiment de partir un peu au bout du monde.
Donc ça, c'est aussi une période où vous l'avez côtoyé, rencontré à nouveau dans ces années 50.
C'est à ce moment-là.
Non, pardon, beaucoup plus tard.
Oui, c'était déjà dans les années 60, tout à fait au début des années 60. Je travaillais à Chassy.
Ah, vous travaillez
à Chassy? Oui, et je dois dire que là, je suis rentré de Rome et je n'avais jamais pratiqué le pastel. Et alors, quand il m'a invité à venir la première fois à Chassy, je suis parti avec une boîte de pastel dont j'avais fait l'acquisition plusieurs années auparavant. Et séduit par la beauté des pastels, je n'osais pas y toucher. C'était une fascination. Alors, je suis parti avec cette boîte. Et puis, arrivé à Chassy, bon, j'ai éprouvé le besoin. C'est peut-être une des rares fois où j'ai éprouvé le besoin de travailler, comme on dirait, sur le motif, de prendre des notations, et j'ai utilisé donc ces pastels. Et là, j'ai vu tout de suite que Balthus a été intéressé, parce que nous parlions naturellement de notre travail, il me dit « Ah, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Ah, montrez-moi cela !» Et alors, on discutait, et ça l'intéressait vraiment.
Oui.
Au point que, lorsque sa marchande, Henriette Gomez, est venue lui rendre visite. Il me dit, écoutez, il faut que vous restiez, que vous prolongiez votre séjour. Henriette vient et j'aimerais que vous la rencontriez. Et à la fin, je me souviens du déjeuner, il me dit, Arnaud, auriez-vous la gentillesse de montrer les pastels que vous faites à Henriette, donc sa marchande. Et je lui montre naturellement... J'étais honoré et en même temps un peu étonné de la demande. Et Henriette, tout de suite, me dit « Ah, ça me plaît beaucoup. Monsieur, je vous fais une exposition. » Voilà comment a commencé donc pas ma carrière de peintre public. Voilà. Et j'ai fait ma première exposition dans la toute petite galerie rue du Cirque chez Henriette.
D'accord.
Voilà.
Et quel regard portait Balthus sur ces travaux que vous faisiez à Chassy ? Vous vous souvenez de ces remarques ?
Écoutez, je vous dis, ça m'ennuie de le dire, parce que c'était des paysages inspirés par... Et je dois le dire que je les ai tous gardés. Bon, ils avaient été chez Henriette Gomez et je les ai donc récupérés lorsque Henriette Gomez donc, a fermé sa galerie.
Je vous en prie. Mais si, allez-y.
Alors, ce sont des paysages, et je dis très honnêtement que Balthus aimait justement cette démarche, non pas picturale, mais pastel.
Il a fait de très beaux paysages, d'ailleurs, de toute cette région, du Morvan, qu'on connaît un peu moins, cette peinture de
Balthus. Je suis un amoureux de cette période de Balthus.
Oui.
Je dirais même que pour moi, personnellement, bon, ce n'est pas du tout dans le but de critiquer, que c'est certainement la période la plus belle oui. et la plus forte de Balthus. Il y a des paysages extraordinaires. Je retrouvais donc dans ses peintures, que je voyais chez Henriette Gomez, ou dans son atelier, l'esprit même de cette région qui, comme je vous le dis, est extrêmement rude, très forte. Et je dois le dire qu'il y a des scènes, du moins il y a des paysages avec cette cour de ferme, car en fin de compte c'est un château intégré à une ferme, c'était donc une sorte de manoir.
Oui.
Oui. Et c'est tout à fait extraordinaire. Il a parfaitement saisi l'esprit même de la région, tout en étant extrêmement libre dans l'interprétation.
Et à Rome, vous aviez déjà échangé sur votre peinture et sur la sienne, je suppose, dans les 16 mois que vous aviez passés ensemble à Rome.
Alors,
comment ça se passait?
Non, Balthus était un homme extrêmement, j'allais dire, discret.
Mmh.
C'est un personnage très, très étrange, une personnalité très étrange. C'était un homme d'une intelligence, à mon avis, supérieure. Je crois que parmi les artistes que j'ai eu l'avantage d'approcher, l'intelligence de Balthus, celle également du peintre Hélion, qui était d'ailleurs dans la galerie également d'Henriette Gomez, sont véritablement des intelligences, j'allais dire, supérieures. Un homme comme Giacometti était également un homme intelligent et très attachant. Toutes ces personnes
que
dont j'ai eu l'occasion de les approcher grâce à Balthus, également Miro, Masson, Labisse, que j'allais retrouver
à l'Académie des Beaux-Arts,
étaient donc de son entourage.
Et donc Balthus, vous me disiez, ne donnait pas de conseils, mais il suivait quand même ce que vous faisiez, en même temps très critique. Voilà.
C'était un homme qui, c'était pas un personnage au parler venimeux dans le sens où il voulait faire du mal ou rabaisser. Donc il avait des remarques très très amusantes. Je me souviens, disons-le, il n'affectionnait pas particulièrement, j'allais dire, la démarche picturale de mon patron.
Qui était ?
Et qui était donc Le Gueux.
D'accord.
Qui faisait partie de ce groupe de la réalité poétique, qui est une très belle expression. Il y avait Brianchon, il y avait donc Le Gueux. Et je me souviens, par contre, lui n'éprouvait, je vous le dis, pas de sentiment particulier pour son œuvre. Ah, par contre, Le Gueux m'avait dit, lors de mon passage à l'atelier, j'étais allé le saluer, et il me dit, vous allez avoir quelqu'un de très bien. Vous allez voir, vous avez vraiment un peintre. Il parlait de Balthus. Bon, pour vous montrer que l'on peut très bien aimer quelqu'un, mais pas forcément, appuyer dans ses vues. Et un jour, à Chassy, Balthus, nous étions en train de prendre le thé, et alors je regarde la cheminée, il y avait un coin de pièce, et j'explique comment Le Gueux avait expliqué, voyez comment la lumière court sur cette arête, lorsque vous trouvez les plans, la moisse, le poids des choses, eh bien, vous aurez compris beaucoup en matière de peinture. Et alors, je vois Balthus qui opine du chef, et je me dis, là, j'ai marqué un point, il trouve ça très bien. Et effectivement, il me dit, c'est bien, c'est très bien. Et puis subitement, ça c'était tout à fait Balthus, il me dit, mais pourquoi ne l'applique-t-il pas dans sa peinture? Voilà, ça c'était une formule très, très balthusienne. Et alors, je me souviens, une fois, j'avais parlé du blairotage, qui était un terme employé par les académiques à la fin du 19e, pendant tout le 19e siècle. Et alors, il était intrigué par ce blairotage. Et alors, chaque fois, il me disait, mais vous êtes un amoureux du blairotage, alors, ce qui n'était pas du tout le cas.
Est-ce que votre regard sur lui a changé au cours de du temps qui a passé, puisque vous l'avez vu à plusieurs reprises à Rome, au moment où vous étiez très jeune, dans ces années après HSI. Est-ce que...
Il y a eu une évolution.
Oui, je suppose, de votre propre relation à vous deux.
Je vais vous dire chose. Oui, d'abord, oui.
Et puis votre regard aussi a dû changer, peut-être sur sa peinture, puisque son travail évoluait aussi.
Mon regard... Alors, je pense que la période où j'ai eu le plaisir de connaître Balthus est une des périodes les plus fortes de sa vie. Bon, il y a eu toute la période avant la guerre, et puis il y a eu la période romaine. Mmh. Ce sont des périodes... Alors, la première
Qu'est-ce
période...
Qu'est-ce qu'il peignait à Rome ?
Il est moins, dire, il se bat.
Oui.
Bon, il est reconnu comme un peintre de qualité par les surréalistes, mais il ne fait pas partie du groupe des surréalistes.
Il n'est pas resté très longtemps avec eux.
Non, ce n'est pas sa tasse de thé. Il avait dit, mais en plus, je ne m'entendais pas avec Breton, il ne s'entendait pas avec, je ne sais plus quel était cet autre peintre. Bon, ce n'était pas sa, comme on dirait vulgairement, sa tasse de thé. Et puis, il y a la période de Chassy, où également, il vit très en retrait, il vit simplement. Il n'a pas de gros moyens, je me souviens. Henriette me disait la somme qu'on lui donnait par mois. Et encore, c'était 5 supporters qui se partageaient cette somme.
Ouais.
Bon, où là, il a vécu également, des amours à la Balthus avec Frédéric. Et il était tout à fait donc dans son monde. C'était un monde, en fin de compte, très terrien, très, très fort.
Pourtant, c'est aussi un homme de la montagne.
Oui.
Parce que ça sera peut-être... Enfin, ça a toujours été, dès l'enfance.
Bien sûr, il y a la grande toile qui représente effectivement cette
sorte
d'excursion dans la montagne. C'était un homme, en fin de compte, simple et en même temps d'une élégance... tout à fait particulière. Non affecté, c'était un grand comédien. Il aurait fait certainement un comédien de très grand talent. Et souvent, il m'évoquait, ce qu'était le passé de sa famille. Pas de son père, mais bon, d'un siècle avant. Et il disait toujours, puisqu'il était d'essence polonaise.
Oui.
De souche polonaise,
sa
maman, qui était peintre, avait été l'amie de Rilke.
Oui.
Et son père était critique d'art. Donc il a vécu dans toute une atmosphère particulière, avec des contacts avec Bonnard. Et c'est Bonnard qui l'a vu partir à bicyclette pour le nord de l'Italie, où l'Italie n'ont pas copié les fresques de Piero della Francesca.
Il a connu Matisse, il a connu Derain, auquel
il était très attaché. Miro.
Il a fait d'ailleurs des portraits d'eux.
Il y a deux portraits
très
qui
beaux.
Se trouvent au Metropolitan. Oui. Celui de Miro et celui de Derain dans sa robe de chambre. Cette sorte de houppelande extraordinaire.
Oui.
Et de Miro avec sa fille sur les genoux.
Donc.
Alors il me racontait qu'effectivement, ses parents. Étaient, du moins pas ses parents, je veux dire ses ancêtres, étaient effectivement des hobereaux. Il me disait, il était tout à fait naturel que tous les domestiques déjeunaient à la table du maître. Il y avait quelque chose en même temps de familial, de rustique et de très vrai. Oui, c'était un personnage tout à fait hors du temps.
Il y a dans un entretien, puisque vous évoquez ça, dans un petit livre de la collection Carré d'art publié en 2001, il s'est entretenu avec son ami Aga Khan et Yehudi Medouin, et il a cette occasion aussi rencontré Théodore Monod. Vous dites qu'il était en dehors du temps, et effectivement, il y a un passage où il dit, je ne sais plus avec lequel des trois il s'entretient, qu'il est un homme du 19e, qu'il trouve que la société industrielle fait des ravages sur la société. Et il a un passage assez amusant, je voudrais juste vous le faire partager. Il parle de la nature, justement, puisqu'on en a parlé des paysages du Morvan. parle du temps décalé. On voit bien que la nature est forte à la façon dont parfois elle se venge. Alors Balthus répond, elle va d'ailleurs certainement se venger, ceux qui ne veulent pas revenir en arrière y seront alors forcés. Revenir en arrière, c'est souvent aller en avant, dit Agacan. Oui, probablement, répond Balthus. Le rythme de la nature est beaucoup plus lent que celui de l'homme. Ceux qui comprennent l'environnement sont les seuls qui voient les choses à long terme. Les politiciens, malheureusement, voient tout à court terme, tandis que la nature et l'art s'étendent sur une période très longue. C'est vrai également pour les alpinistes, on retrouve son goût pour la montagne, qu'évoque Agacan. Le rythme de leurs pas, la manière dont ils organisent leur itinéraire, sont en harmonie avec la nature. On emploie dans ce pays des expressions délicieuses qui expriment bien ce rapport avec le rythme naturel. Un matin, par exemple, c'est la surface de pré que peut couvrir un homme avec sa faux en une matinée. Autrefois, on mesurait les prés en matin et en journal. Oui. Et Balthus lui dit, déjà Delacroix se plaignait dans son journal de la disparition progressive du geste de faucher. Je pense que l'usage des appareils agricoles, qui apparaît comme une commodité, est en fait une calamité. Et Agacan dit, oui, comme si l'esprit se rétrécissait. Et encore, Delacroix n'a pas connu les hélicoptères. J'ai vu des vaches que l'on descendait de l'alpage en hélicoptère. Et Balthus lui dit, leur lait devait sûrement tourner. Et dans cet entretien un peu drôle, on voit justement que ce qui les réunit, c'est un peu ce goût du passé. Mais pas, ils ne sont pas passéistes dans leur démarche.
Non, non, non.
Mais ils sont effectivement un peu en dehors du temps ou très critique à l'égard
oui,
et
en même temps, ils ont une
de cette frénésie
réaliste.
Voilà. Ah oui, c'est très très.
D'ailleurs, je dois le dire que vous le savez, bon, ses peintres préférés étaient Pierrot de la Francesca, donc on prend fort bien Poussin et Courbet.
Et Courbet.
Je me suis rendu encore il y a quelques jours à Ornans et je regardais certaines toiles. Comment on dirait, on voyait très bien ce qu'il avait aimé et pris, c'est pas le terme, le terme est peut-être malheureux, mais en tout cas, il avait profité donc de cet apport considérable. Alors il avait comme ça des figures, et j'ai jamais bien compris ce qu'il voulait dire par là. Il me disait toujours, oh vous Arnaud, vous êtes un gothique.
Alors que voulait-il donc dire?
Alors je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là. Il disait toujours, vous êtes un gothique.
Par rapport à la peinture médiévale, qu'est-ce qu'il voulait dire?
Ah non,
dire
pas à la peinture, en tant qu'homme,
par rapport à
souvent,
quoi?
Il avait comme ça.
À l'Espagne? Qu'est-ce
non,
que ça voulait
je
dire?
Sais pas, je ne sais pas. Je n'ai jamais su ce qu'il voulait dire par là, parce qu'il avait comme ça des clichés. Et il me dit toujours, eh bien, Arnaud, vous êtes un gothique.
Et vous n'avez jamais osé lui demander?
Alors, physiquement, je ne sais pas. Pour lui, c'était une image.
Vous parliez de Courbet, effectivement, dans la toilette de Cathy, on dit que cette toile, justement, a quelque chose d'un Courbet.
Oui, absolument.
Vous pourriez nous la décrire? Ou nous parler un petit peu de cette œuvre, qui est très célèbre? C'est peut-être que vous voulez parler d'une autre œuvre, hein, monsieur Dautry, vous n'êtes pas...
Alors, il y a ce personnage qui était à gauche, qui est en fin de compte un autoportrait.
Oui, tout à fait.
Quand il était donc jeune homme. Et alors, il y a cette femme. Alors, moi, j'aime beaucoup donc cette harmonie dans des tons de terre, de gris, de noir, extrêmement appuyés. Ils sont très beaux. Alors, ce qu'il y a dans les œuvres de Balthus, il y a toujours un personnage un petit peu incongru qui apparaît, qui est là. Là, c'est cette rencontre entre la jeunesse et j'allais dire, une personne âgée.
Qui la coiffe.
Ça, c'est une très belle toile. Ce contraste qui me fait penser à une toile de Dans Baldungrin, où il y a également la carnation claire à côté de carnation donc foncée, et souvent beaucoup plus sombre. Non, Balthus est un homme qui a beaucoup appris, comme on dirait, en regardant la peinture des autres, en tout cas certaines peintures. Et c'était le cas de Pierrot della Francesca, et surtout également de Courbet.
Et de Poussin aussi.
De Poussin également.
On a parlé...
Paolucello également était un peintre qu'il aimait.
Vous écoutez Canal Académie.
Balthus, comment on pourrait le situer ? Puisqu'il n'a pas suivi d'école, on va dire, mais qu'il a copié les œuvres, c'est normal.
C'était un autodidacte, j'allais dire, de génie, en fin de compte. Voilà. Il a eu les meilleurs professeurs.
Alors justement, qu'est-ce qu'il en a fait de ces noms que vous venez d'évoquer, de ses œuvres ?
Balthus était, en fin de compte, un peintre très attaché à la tradition. Il y a des règles pour lui qui étaient absolument immuables et il ne pouvait pas comprendre que l'on invente. D'ailleurs, souvent, j'ai eu des conversations concernant Malraux. Et il me disait, mais Malraux dit ça, mais il ne pense pas cela.
Alors, sur quoi, par exemple ? Vous vous souvenez ?
Non, parce que parfois, je me souviens, on disait, mais il défend quand même certaines expressions, il se lance dans des aventures. Il me dit, André n'est pas comme ça. Et il s'arrêtait.
D'accord. Il n'était pas très expansif, quand même.
Non, c'était pas un homme qui parlait, comme on dirait, pour ne rien dire. Alors, nous avions tout un rituel à Chassis qui faisait que l'on prenait le thé. Après, nous parlions généralement de peinture. Ensuite, nous passions à table. Et puis ensuite, après le dîner, nous faisions du moins Frédéric faisait des réussites. Il adorait les réussites également. Et l'on jouait aux cartes. Et puis après, le temps était passé à la lecture. On se mettait chacun dans un coin et on regardait des ouvrages qui étaient entassés un peu partout. Et là, il y a une anecdote que je raconterai peut-être tout à l'heure et qui est tout à fait balthusienne.
Oh, on ne résiste pas à l'envie de vous demander tout de suite quelle est cette anecdote.
Parce que cette histoire, en fin de compte, se déroule d'abord à Rome et Balthus, sachant que je venais du département de l'Aisne, de la région de l'An, alors qu'il venait d'être introduit à la Villa Médicis, il me dit « Ah, mais je sais que vous êtes de l'Aisne, connaissez-vous la forêt de Saint-Gobain ?» Je lui dis « Bien sûr, je connais la forêt de Saint-Gobain, au nord de l'An. » Il me dit « Avez-vous entendu parler d'un sabotier qui vivait dans cette forêt ?»
Oh là là.
Je lui dis « Non, je n'ai pas connu de sabotier. » Bon. Et bon, la conversation s'arrête là. Et puis, peut-être 2 ans après, une occasion fait que nous nous retrouvons chez moi à la campagne et j'étais allé l'accueillir au train. Il était avec une des 3 sœurs qui figurent dans la toile des 3 sœurs.
Oui.
Et il me dit, Arnaud, ça me ferait très plaisir si vous m'emmeniez dans la forêt de Saint-Gobain, voir où a vécu ce sabotier. Et alors, je dis, mais bien sûr, Balthus, nous allons faire cela. Alors, nous voilà partis dans la forêt de Saint-Gobain et arrivés dans la forêt, nous demandons si l'on avait entendu parler d'un sabotier qui vivait peut-être au XVIIe siècle dans cette forêt. Naturellement, réponse négative. Nous rentrons dans la forêt, nous cherchons, il vivait dans une grotte, soi-disant, et nous voyons un cheminot qui rentrait la nuit tombée, et on lui demande, et ce monsieur nous dit, écoutez, j'ai pas entendu parler de Saint-Gobain, mais il y a une grotte qui se trouve à proximité, allez voir, et nous arrivons la nuit tombée dans cette grotte, et d'un seul coup, je vois Balthus, j'allais dire gesticulant, en disant, c'est extraordinaire, c'est la grotte du sabotier. Alors, je lui dis, écoutez, nous avons eu une chance. Je dis, les dieux sont véritablement avec nous. Alors, il dit, mais je vois là où il mettait ses sabots. Bon. Non, mais...
Pour lui, c'était ça.
C'était ça. Bon. Donc, et puis, les mois s'écoulent et nous étions justement assis en train de regarder
beaucoup, les légendes.
Ce que l'on appelait le petit journal illustré. Il en avait des piles, alors on regardait cela. Et d'un seul coup, je tombe sur un titre, Le sabotier de Saint-Gobain, dans le titre Veillée des chaumières. C'était un feuilleton vraiment de très bas étage. Eh bien, il avait entretenu pendant des années... Le mystère de ce sabotier Saint-Gobain, que tout le monde y croyait.
Oui, oui.
Et alors que c'était simplement une vision tout à fait particulière. Ça, c'était Balthus.
Oui. Mais je crois qu'enfant, il aimait beaucoup les ouais. contes, les légendes.
Ah oui, 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 il adorait ça. Je trouve Strummelpeet, il en parlait, oui. Et alors, le soir, je me souviens, nous étions revenus dans le village où j'avais donc ma maison. Et puis, j'étais allé dîner dans un restaurant de campagne, comme il y en a, et nous voyons arriver une de ces braves paysannes, tout à fait dans l'esprit de cette dame qui est en train de faire la toilette
de Cathy. Là, sur la toile.
Chose étrange, cette femme portait une soupière fumante, et naturellement, elle avait les joues assez écarlates, et d'un seul coup, Balthus se tourne vers moi et me dit, Arnaud, nous sommes servis par Paracels. C'était le portrait. Il avait comme ça de ses trouvailles tout à fait uniques.
C'était un homme aussi de très grande culture, vous l'avez dit tout à l'heure, qui était élevé dans un milieu d'art, complètement.
On en a parlé. Raffiné et en même temps très simple.
Oui. Et puis, qui a aussi un rapport très personnel avec la poésie, les poètes, pour des tas de raisons.
Oui, oui.
Puis les poètes étaient très attirés.
Oui, parce qu'il était très ouvert également. Je me souviens, cet acteur qui venait souvent lorsque nous étions à Rome, Alain Cuny.
Oui.
Je me souviens de soirées comme ça. Parce que pour moi, qui était encore, j'allais dire jeune, relativement jeune, tout ça était passionnant.
Et alors, cet acteur
Il se voyait souvent avec Cuny, venait passer souvent une ou deux semaines. Alors, très souvent, ce qui se passait, on disait, oh, nous partons pour 3 ou 4 jours. Puis Balthus, oh, vous n'allez pas partir, vous allez encore rester. Et puis, à la fin, c'était un mois et demi.
Alors, vous l'avez revu après, dans quelles circonstances, en dehors de cette période de châssis?
J'ai connu l'époque où il s'est en quelque sorte séparé de Frédéric et où il a épousé, effectivement, Setsuko. Il s'est marié avec cette personne japonaise. Alors, à ce moment-là, nous nous sommes beaucoup moins vus, car il était naturellement plus souvent à Rome, il n'allait plus à Chassis.
Ouais.
Chassis a été un endroit un peu privilégié, où j'ai eu l'avantage de véritablement l'approcher. Non, je me souviens, lorsqu'il est parti pour le Japon, la première fois, envoyé par
Malraux, d'ailleurs.
Et il ne voulait pas partir au Japon. Ça, c'était lui. Il dit, oh non, qu'est-ce que je vais aller faire au Japon? Et alors, avec Henriette, je me souviens, nous l'avons accompagné à Orly. Et nous l'avons mis quasi poussé dans l'avion. À l'époque, bon, ce n'était pas les voyages comme on les connaît maintenant. Et il ne voulait pas partir. Et nous avons eu, d'un seul coup, non pas la puce à l'oreille, quand revenu, la première chose qu'il nous dit, « Ah, mais je vais repartir au Japon. » Alors, nous avons été très étonnés. Et alors, effectivement, quelques temps après, nous avons vu arriver Setsuko. Voilà.
C'était la raison.
Alors, là, c'est un autre Balthus qui naît. C'est un peintre de talent qui commence à être reconnu. Il séduit la société romaine. C'est un charmeur, ne l'oublions pas, c'est un séducteur.
Il était très beau.
Oui, très beau, énormément de...
De charisme.
De charisme. Et là, c'est une envolée. Donc, il côtoie, non pas tous les grands de ce monde, en tout cas de l'art, de la culture. c'est un Balthus qui continue à peindre, qui développe, si vous voulez, en quelque sorte, sa vision picturale, mais pour moi, la grande période de Balthus est cette période, donc, peut-être Cathy, mais également toute la période de Chassis.
Et est-ce que vous diriez que Balthus était provocant?
Ah, il aimait provoquer, oui. Il aimait provoquer. Alors, le plus souvent, bon, on évoque le fait de ces petites filles dans des positions, bon, ou dans des attitudes qui peuvent surprendre, mais je dirais que c'est une partie infime, ce n'est pas ça, Balthus. Je pense qu'il est beaucoup plus fort, regardez, dans des paysages, même comme ceci, comme ces figures. Là, je me souviens le paysage de l'Archant, qui est un merveilleux. Nous étions partis pour Chassis, il m'avait dit, ah, Arnaud, il faut que je vous montre l'Archant. Ça avait été peint par lui, je crois, oui, c'était en 39. Oui, en 1939. Et ce tableau appartenait à Cassandre. Il était en dépôt, du moins, il était à l'abri chez la maman des trois sœurs. Et je me souviens, c'est un magnifique tableau qui a été vendu par la suite à Genève. C'est un des premiers tableaux qui fait un prix déjà considérable.
Et sur sa peinture, on va dire, sur les scènes d'intérieur, en dehors des paysages, sur ce qui a aussi fait connaître Balthus avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une peinture que vous préférez, celle de la période de Chassis,
mais j'aime beaucoup celle qui précède, par exemple. Là, le nu rouge, des choses comme ça sont tout à fait extraordinaires.
Oui, on dirait un peu que le temps est suspendu dans les tableaux de Balthus.
On le ressent particulièrement dans le passage du commerce.
Oui.
Le temps, il y a quelque chose de figé. Ce sont un peu les visiteurs du soir également. Il y a une sorte de filiation. Et puis alors, la recherche des costumes, qui ne sont pas du tout des costumes de notre époque. Là, dans le passage du commerce, vous avez cet enfant, on ne peut pas dire que ce soit un enfant
du XXe siècle.
Oui, du XXe siècle, voilà. Bon, la fillette avec la jupe assez courte, bon. Et alors, il y a surtout cette espèce de petit personnage lunaire qui se promène au milieu de la rue, oui.
Qui fait face aux spectateurs qui voient le tableau, qui le regardent. Balthus vivait-il avec des chats, lui, qui en a tellement peint à Chassis? Il y avait des chats?
Alors, moi, j'ai connu l'époque où il en avait, je crois, 17.
D'accord, comme Artaud.
Alors, c'était une masse de poils qui se trouvait derrière la cuisinière. Il y avait une de ces grandes cuisinières, comme elles existaient à cette époque. Non pas en fonte, avec également des cuivres, et derrière, il y avait une sorte de gouttière dans laquelle tous ces chats se trouvaient les uns sur les autres. Ça me rappelle un petit peu le goût qu'avait Hemingway. Hemingway avait également une quantité de chats lorsqu'il se trouvait à Key West.
Et alors, on parlait de la musique tout à l'heure. Vous nous disiez que Balthus aimait Mozart.
Oui.
Vous parliez ensemble de musique? Parce que
alors,
Mozart,
nous parlions, nous écoutions, oui. Surtout.
Oui.
En fin de compte, ce n'était pas un homme de développement. En fin de compte, c'est très difficile de parler de peinture, de musique, de tout cela. Nous écoutions, nous savions que nous aimions.
Oui.
Et je me souviens, le morceau qu'il avait, il y avait un morceau qu'il affectionnait, c'était le concerto pour trompette de Haydn. D'ailleurs, j'en ai fait l'acquisition, je ne l'avais, moi, jamais entendu. Je ne sais si vous voyez ce dont je parle. Et ça, c'était un morceau qu'il affectionnait. Et particulièrement Così fan tutte. C'était, d'ailleurs, je crois que c'était pour Così fan tutte qu'il avait, à Avignon, réalisé
les décors.
Mmh.
La musique est présente aussi d'une autre façon, mais dans ces tableaux, il y a des instruments de musique par-ci, par-là, les jeunes filles à la guitare, et puis il y a d'autres, oui, beaucoup plus, où la guitare est un corps, où c'est beaucoup plus provocateur. Donc là, c'était le Balthus de la première moitié du XXe siècle. Il a dit lui-même qu'après, il s'était un peu réconcilié avec ce côté provocateur, qu'il avait voulu un peu l'effacer. Vous l'avez entendu s'exprimer là-dessus? Non.
Je vais vous faire un aveu. Nous n'avons, pour ainsi dire, jamais parlé de ça. En fin de compte, c'est quelque chose de naturel pour des artistes. C'est beaucoup plus pour le spectateur qui n'est pas artiste, où on est intrigué. Pour un artiste, ça n'est pas quelque chose... particulier.
Surtout que sa peinture n'était pas forcément destinée non plus à être vue.
Alors je sais que moi-même j'ai eu des peintures, tout artiste a eu à un moment donné plus ou moins des peintures, disons-le, légères. Mais bon, ce n'est pas... Bon, c'est naturellement un peintre de paysage face à... des toiles comme celle-ci qui est absolument
sublime.
C'est
très beau ça. Ça c'est une belle, une toile particulièrement justement érotique quand même là.
Oui, mais qui ne.
Mais qui est magnifique, qui n'est pas. C'est le Nyusha, peint en 1848. On voit.
Alors ça c'est la grande période.
Femme,
également. Ouais. C'est la grande période de Balthus. Ceci est très beau également.
Oui.
Alors très courbé.
Oui.
Avec toujours le chat interrogateur. Qui est là. Alors après, bon, il va non pas abandonner ce thème, bon, où les nus sont vraiment des nus. Bon, ceci.
Vous l'avez revu en Suisse quand il s'est installé.
Alors je l'ai revu
en Suisse
à plusieurs reprises. Et alors une fois, je suis allé le voir à Rossinières, dans ce magnifique chalet. Et il avait pour habitude, donc, alors il arrive et il me tombe, j'allais dire non pas dans les bras, ses bras sur mes épaules, il tombe. Il me dit, Arnaud, vous m'avez fait une peine. Je dis, comment ça, Balthus, je vous ai fait de la peine? En entrant à l'académie. ça a été je me souviens toujours. Alors, vous m'avez fait une peine. C'est en rentrant à l'académie. Bon, puis après, bon, ça a été totalement donc oublié. Ah non, c'est un personnage, je dois dire, qui m'a profondément marqué humainement, picturalement. Bon.
Et que gardez-vous de lui justement?
Je n'ai pas de souvenirs particuliers, si, ce sont des moments.
Des moments.
Je n'ai eu, avec Balthus, j'allais dire, que de bons moments.
Déjà
et
énorme.
Dans une vie, c'est merveilleux, que des échanges qui étaient sympathiques, de grands fous rires, un plaisir. Je me souviens, nous sommes partis à la montagne, à une époque sur laquelle je ne veux pas donc appuyer. C'est au moment où il avait quitté... Frédéric, et où
il avait
rencontré donc Setsko. Bon, là, Henriette me dit, il faut que tu l'emmènes. J'étais à la montagne, à Zurs, et nous sommes partis avec Philippe Lelièvre, qui était un ami également, et qui était pensionnaire à la Pila Médicis. Nous sommes partis pour Zurs. Et là, c'était extraordinaire parce que il a prétendu qu'il avait attrapé une pneumonie. Bon, il avait attrapé un rhume, comme on dirait, de poitrine. Alors, il restait couché, mais alors, en même temps, il entretenait le fait, Balthus, peintre, etc. Alors, les gens venaient lui rendre visite. Alors, il recevait au lit.
C'est son côté comédien que l'on parlait tout
côté,
à l'heure.
Absolument. Et alors, tout le monde était ravi de cela. Il y a des souvenirs. Et alors, nous étions arrivés, je me souviens, dans une petite ville, dans la montagne, et il faisait un froid terrible. Et nous commençons à avoir une discussion. Il me dit, oh, il fait au moins moins 5. Alors, je lui dis, vous savez, j'ai l'impression, Balthus, qu'il fait... c'était à Innsbruck. sur une petite place. Nous étions allés voir, j'allais dire, à l'intérieur d'une église, des armures, du moins des sculptures représentant des empereurs autrichiens. Et nous voyons un pigeon mort. Et ce pigeon, en fin de compte, était mort de froid. Et alors, d'un seul coup, il est parti. Hein, toute une histoire autour de ce pigeon mort de froid. Et alors, nous sommes allés nous réchauffer dans un petit café. Et là, nous avons demandé, mais quelle température? On lui dit, oh, mais il fait moins 30. Alors, immédiatement, dès l'instant où il ne ressentait pas véritablement le froid, mais quand on lui a dit qu'il faisait moins 30, d'un seul coup, il a commencé à s'en mitoufler. Il ne parlait plus que de moins 30. Même si ça n'avait pas été, on n'avait pas eu de changement.
Et
ça, c'était... Il y avait un côté enfant. Oui. Il adorait jouer l'enfant, oui.
Et puis, bon, c'est peut-être une banalité de le dire, mais c'est justement, l'enfance est très présente dans ces toiles. Il a représenté ses petites filles ou ses enfants qui jouent, ou ses
Alors
adolescents.
J'ai connu ses fils, qui étaient ma foi fort sympathiques, mais qui étaient naturellement jeunes à l'époque. Je ne sais pas si c'était un homme qui avait la fibre paternelle. Dans le sens, je ne sais pas, je ne peux pas me permettre.
Est-ce que vous avez des dessins de lui, des toiles?
Non. J'aurais pu en faire ne serait-ce que l'acquisition, car il y avait des œuvres qui atteignaient des prix, j'allais dire ridicules, pas du moins, qui étaient donc dans mes possibilités. Non, si vous voulez, pour moi, je garde une image... d'être un peu simpliste, mais très vrai de ce qu'a été Balthus. C'est un homme... écoutez, il m'a été rapporté une anecdote que je trouve extraordinaire, et je crois que ça ne peut pas être le point final. Bon, sur Balthus, il est allongé sur son lit, donc alors qu'il est malade. Il va donc mourir peu de temps après. Sa femme arrive, le voit donc allongé, tape sur l'épaule, il ne répond pas. Elle s'inquiète, ou elle recommence, il ne répond toujours pas. Et puis, au bout d'un moment, elle le croit, si j'ose me le permettre, décédé. Et alors, d'un seul coup, il se réveille. Alors... son épouse lui dit « Mais pourquoi tu ne réponds pas? J'ai cru que tu étais mort. » Et Balthus a cette réponse extraordinaire « J'étais en conversation avec Dieu. » Vous savez, il faut le faire. Et ça, c'est Balthus. Ce côté... Alors, toute la période romaine, là, je ne l'ai peu vu. En tout cas, je ne le voyais pas à Rome. C'était non pas un autre Balthus, mais c'était plus ce Balthus généreux, fort, détaché de beaucoup de choses. Lorsque nous étions à Chassy, il nous arrivait de partir dans la campagne. Alors nous installions au sommet d'une colline et pendant, véritablement trois quarts d'heure, nous regardions l'un à côté de l'autre la nature. Alors il me disait, mais comment vous peindriez cela? C'est ce qu'il m'avait demandé pour la chambre turque.
Ah.
Il avait eu ce problème du carrelage.
À Rome, là.
Oui, il me dit, j'étais venu le voir, et il me dit, mais Arnaud, comment peindriez-vous cela?
Il avait réaménagé aussi
la villa.
La villa. Ah,
la villa était un Balthus.
Oui.
Excusez-moi, pour le...
Oui. Et aujourd'hui, ça a disparu ou c'est toujours...
Alors, est-ce que vous savez si... malheureusement que c'est en passe de disparaître.
Ah. Parce qu'il
vous
y a...
savez, il y a des personnalités très fortes, et c'est un petit peu comme les fantômes.
Mmh. Ah, mais ça devrait lui plaire, ça.
Je pense que c'est lui qui... Ah oui, ça, il adorait cela. Bon. Oui. C'était une création en soi pour lui. Et il avait fait cela de façon... C'était un Balthus.
Et pour la chambre turque, je vous ai interrompu, pardon, monsieur Dautrive, qu'est-ce que vous vouliez nous dire?
Alors, c'est une de ces toiles, la chambre turque, qui se trouve à Beaubourg.
Oui.
Alors, je me souviens, il l'a peignée, et il était donc in situ, c'était dans une des tours de la tour droite, quand on regarde des jardins, la Villa Médicis, Et c'est là qu'il peignait cette toile. Et donc, il y avait donc des carreaux de faïence qui l'intéressaient beaucoup, qui rentrent dans la composition de la toile. Et il m'avait dit, ah, mais là, j'ai un problème pour ces carreaux. Et alors, il s'était tourné vers moi en me demandant, mais comment peindriez-vous cela? Alors, effectivement, nous en avions parlé un certain temps, mais bon, j'étais honoré, mais dire à Balthus, écoutez, peignez-les comme ça.
Ça n'était pas possible.
C'était un peu outrecuidant.
Quel serait le mot, selon vous, qui définirait son œuvre? Un mot.
J'ai connu beaucoup de monde à travers le monde.
Oui.
Mais c'était un personnage, c'est le personnage dont je dirais vraiment hors du commun. Hors du commun et un incroyable séducteur. Mais il était, par son intelligence, par son physique, par son charme, en même temps, il pouvait être extrêmement blessant. S'il le voulait, je l'ai entendu parler de certaines personnes, là, il n'y avait aucun recours.
Mais il devait énormément impressionner.
Il impressionnait, il avait une...
Il aimait un peu la rivalité.
La
rivalité. Non.
Non, ce n'était pas son problème.
D'accord.
Une sorte de confiance en lui et en même temps un doute. Mais c'est un tel amalgame de qualité que les défauts, bon, il a certainement eu des défauts, peut-être a-t-il, vers la fin de sa vie, trop aimé le monde, la notoriété, les têtes couronnées, ce qui a un peu falsifié l'image que moi, personnellement, je garde et que j'aime de Balthus. D'un homme, en fin de compte, simple et très fort. Et pour moi, l'un des plus grands peintres de notre temps et de tous les temps.
Arnaud Dautrive, merci beaucoup de nous avoir fait partager l'évocation de ses souvenirs, des moments partagés avec Balthus au cours de sa vie. Et puis, merci encore de toute cette évocation.
C'est moi qui vous remercie.